Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Messieurs, mesdames, bonjour. Merci de choisir Radio Okapi. Ce rendez-vous avec la culture congolaise dans sa diversité nous amène aujourd'hui à la découverte de deux peuples, les Bamboma du Congo central et les Kobo du Nord Kivu. Des origines de ces peuples jusqu'à l'organisation de leur pouvoir coutumier, nous vous assurons de belles découvertes dans ce numéro d'identité culturelle. Pour vous le présenter, je suis Rosalie Zawadi. Bienvenue. Nous commençons cette découverte au Congo central où Nana Plurish Mambu nous amène à la découverte des Bamboma. C'est avec Louvangu Kiowa Aimé, l'un des notables de cette communauté.
Le peuple Mboma, ou Bamboma si vous voulez, comme tout autre peuple Congo, nous sommes tous venus de l'Angola. Mais nous ne sommes pas venus le même jour. Et chaque groupe a emprunté un chemin qui était le sien. Les Bamboma, en venant de Manza Congo, il y a un groupe qui est resté à Songololo. Un autre est passé par Luozi pour contourner vers Sekibanza ici. Donc, traverse le fleuve, passe par le fleuve, Luozi et contourne vers Sekibanza ici. Un autre est venu directement par Nok ici, il est resté sur place. Un autre est passé par le fleuve ici, il s'est installé vers Kongolo ici. Toujours dans le cadre de ces migrations-là, il y a des gens qui sont allés plus loin, vers Boma, vers Kinzamvo et ainsi de suite. Parce que les Bamboma, nous occupons les territoires de Sekibanza ici, une partie du territoire de Mwanda, Boma et Songololo ici. Matadi aussi, bien sûr. C'est ça les Bamboma. À l'époque d'ailleurs, on parlait seulement du territoire de Matadi qui était occupé par les Bamboma. Mais avec une certaine évolution, la politique de ce pays a voulu que les Bamboma soient scindés. Les uns sont allés dans le secteur de Sekibanza, d'autres sont allés à Songololo, d'autres encore sont restés à Matadi, et les autres font partie du territoire de Mwanda. Donc voilà comment on a divisé les Bamboma. Et cela nous a affaiblis, nous les Bamboma. Parce que lorsque nous étions ensemble, nous étions très forts. Et d'ailleurs, vous verrez, en 60, du point de vue du pouvoir politique dans cette province ici, c'était les Bamboma qui occupaient le premier plan. Nous avions un gouverneur, nous avions tous les autres directeurs de chefs, c'était nous. Chargés de sécurité, les directeurs des entreprises, tout ça c'était les Bamboma. Et ça fait notre fierté. Mais malheureusement, on ne doit pas se limiter là. En principe, nous devions refaire les choses pour redevenir ce qu'eux ont été. Mais là, c'est un exercice extraordinaire parce que ça demande beaucoup de choses.
Comment ce peuple est organisé? Y a-t-il un roi ou un chef suprême?
Ah, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de problèmes. Vous savez, toutes ces communautés qui habitent aux alentours des grands centres urbains ont des problèmes, hein, parce que du point de vue de l'organisation du pouvoir coutumier, bon, aujourd'hui, ce que j'ai pu observer, nous nous basons simplement sur les chefs coutumiers qui occupent les villages, et c'est tout, hein. Et dans chaque famille, il y a un chef de famille. Mais la notion du roi, ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Et ce sont des chefs de village, ce sont des chefs de coutumiers au niveau des villages. Ce sont des chefs de groupement, c'est tout.
Et quelles sont les valeurs culturelles des Bamboma?
Les valeurs culturelles, du point de vue de, par exemple, nous avons une culture très riche. Si nous devons remonter à l'histoire du royaume au Congo, dans le cadre de la culture, on doit faire allusion à ce que nous appelons les San Salvador, parce qu'ils sont très proches des Bamboma. Et du point de vue de la musique, vous n'étiez pas encore né, je suis sûr, mais vous avez appris quand même qu'il y a eu des gens comme de Oliveira, des gens comme ça, de San Salvador, qui sont venus de l'Angola, qui sont passés par ici et qui sont allés à Kinshasa. La musique qu'ils avaient faite là, c'est justement la musique de Bamboma. Ça, c'est ça les Bamboma. Donc, c'est un rythme envoûtant, extraordinaire. Je pense même promouvoir ce rythme-là aujourd'hui. Donc, je veux simplement dire que la culture Bamboma, vu du point de vue de la musique, existe aujourd'hui. Il y a des jeunes gens qui tiennent encore à conserver cet aspect des choses, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que d'abord, nous avons un problème de pression démographique sur nos terres. Vous savez, les Bamboma sont tout autour de la ville de Matadi. Donc, il y a un problème sérieux de gestion des terres qui se pose. Il y a un mélange aussi par l'incursion ou la venue de beaucoup d'autres peuples qui occupent nos villages et tout ça. Donc, il y a un mélange qui est en train de se faire, mais nous, on veut bien ce mélange, mais on voudra quand même conserver notre culture, propre culture Bamboma là.
Et qu'est-ce qui caractérise l'alimentation des Bamboma?
Oh, les Bamboma, ça c'est connu. Nous, c'est le Wandu. Nous aimons bien les Wandu, nous aimons bien les Madesu, les Mbala, Madioko, les Wandu, ce sont les petits pois là. Non, ça c'est l'aliment de base.
Est-ce que les Bamboma ont un comportement propre à eux?
Les Bamboma sont des jouisseurs. Ils aiment la vie, ils aiment vivre. Ils aiment boire, manger, danser. Voilà, je n'en dis pas plus.
Et comment on dit bonjour à Kimboma?
Kiambotekienu. Botetata, botemama.
Et comment se fait l'initiation des jeunes filles et garçons?
Est-ce que ça existe encore cette histoire-là? En tout cas, moi, je n'ai pas encore assisté à l'une de ces initiations-là. Et je ne sais même pas si ça existe.
À l'époque, mais, c'était comment?
Mais comme partout ailleurs dans le Congo central, dans le royaume Congo, c'est-à-dire, il y a des sages, il y a des aînés qui regroupaient les jeunes, selon qu'on est filles ou garçons. On les mettait ensemble, c'est-à-dire les filles de leur côté, les garçons de leur côté aussi, et on leur apprenait ce qu'on devait leur apprendre. C'était donc des enseignements, et il y avait un moment où on les laissait, quoi. C'est-à-dire, à la fin de l'initiation, il y avait une sorte de fête, quoi. C'est un affranchissement, disons, en quelque sorte. Ça n'existe plus.
Et quel est le statut de la femme chez les Bamboma?
Mais le pouvoir chez les Bamboma, c'est la femme. D'abord, chez nous, les Congo, c'est les matriarcats. Et qui dit matriarcat dit reconnaissance de la valeur supérieure de la femme. Et puis, chez nous, même si la femme n'est pas chef coutumière, mais vous sentirez que dans les familles, les femmes, c'est elles qui décident pratiquement.
Quel type de masque peut-on trouver chez les Bamboma? Parlons de la musique. Qu'est-ce qui fait la particularité de la musique et de la danse chez les Bamboma?
Les Bamboma utilisent la hanche pour danser. Et le fond de leur musique, c'est le tam-tam. Et quand tu les vois danser, c'est vraiment extraordinaire. C'est la hanche. Hanche et des petits mouvements liés aux hanches.
Koya e mama koya, koya e mama koya.
Voilà, ça par exemple.
Est-ce que les valeurs que vous avez acquis de vos aïeux, c'est ce que vous avez transmis à vos enfants?
Une partie oui, et une autre non, parce qu'il faut aussi tenir compte de l'évolution des choses. Nous avons été à l'école avec des rigueurs, hein. C'était presque à la fin de l'école coloniale, hein. C'était déjà l'indépendance, mais cette rigueur existait encore. C'était une formation digne de ce nom. Et puis, nos parents étaient rigoureux dans ce que faisaient les jeunes gens par rapport à l'environnement global de la société. Et en plus, les valeurs Congo étaient sur le premier plan. Là, on respectait la culture Congo. Nous étions vraiment Congo à l'époque. Aujourd'hui, on est un mélange d'un tout là. Donc, c'est pas pareil. Même l'État lui-même reconnaît que les choses ne vont plus comme il devait être. Aujourd'hui, les gens font de n'importe quoi. On ne respecte rien. On ne sait même pas, par exemple, que les aînés existent dans la société. Que les plus jeunes doivent du respect aux plus vieux. Et vice-versa, bien sûr. Mais d'abord, les jeunes doivent du respect. Doivent les égards aux plus âgés. Des choses comme ça. Il y a des actes qu'on ne peut pas poser en public. Il y a des choses comme ça. Enfin, il y a une série de valeurs qu'on n'arrive plus à retrouver aujourd'hui. Et même du point de vue de l'État. Il y a des valeurs qui sont dans la constitution même du pays, dans les lois du pays. Mais l'exécution, le respect de ces valeurs-là, c'est encore un autre problème. Les sanctions, est-ce qu'il y en a? Vous verrez, par exemple, quelqu'un pisser dans la rue, devant tout le monde. Je ne sais pas si c'est une valeur. Madame, je suis allé en Banza-Congo, je crois, plus de 4 fois. En Banza-Congo, capitale du royaume Congo, les valeurs Congo existent encore. Et Banza-Congo, ce n'est pas à 200 km de ma tête, c'est à une centaine de kilomètres simplement. Mais posez la question aux Congo qui sont à Matadi ici ou ailleurs de la province. Combien de ces gens-là sont allés à Banza-Congo pour se ressourcer? Combien? Quels sont les liens officiels que nous avons avec Banza-Congo, qui est pourtant notre capitale culturelle? Quels sont nos liens? Mais je vous dis que cela m'inquiète. Parce que lorsqu'on crie ici que la langue Congo est en train de disparaître, lorsqu'on raconte ici que la culture Congo elle-même disparaît, mais je me dis, mais à côté, il y a des gens qui ont pu conserver cette culture-là. Nous pouvons voir comment justement nous référer à ces gens-là. Voir ce que ont fait pour conserver cette richesse culturelle-là, cette façon de vivre-là. Malheureusement, je trouve que nous parlons un peu trop, nous ne faisons pas grand-chose. Et nous ne mettons pas chaque chose à sa place. Parce que je pense que tout est avant tout culture. Même la politique ici. Je ne sais pas si la politique a quel soubassement. Pour moi, la politique devait avoir comme soubassement, comme fondement, la culture. Voilà.
Kadinge kaire hai shondungulu shaire hai shondungulu maushiresho omonyi twese amashenge mutaenda mu shangoma bana bere balimba e
bakungule musharuke amumva mahano kulianga kwimbwa zairwa heya shire ni betare ngoma bakungule mutusikilize ana mwenge mukinyali mafu.
Tu n'avais rien à na bereira sae.
Mas o ser que o mapasa, Benjamin, Anseti na Elise,
Vana bere valipae, Vana bere visirue, Vana bere ira sae, Vana bere valipae, Vana bere visirue, Vana bere ira sae.
Kera bangu mabaku kisimbae, kera kera bangu mabaku ikobo, kera kera bangu mabaku mulinde, kera kera bangu mabaku ushangao. Nibana tina kakorae, nibana tina video, nibana tina o. Mashatene na imaka ibumba uholo, mashatene na imaka ibumba uholo.
Ngoma ya utamaduni yo,
mimi ni ngoma ya wakumbule, tena ni ngoma ya watu wa Busanga, tena ni ngoma ya watu wa Mulinde. Nimejitoa kufunza watoto ngoma, nimejitoa kukumbusha wazee ngoma. Nashukuru Papa Auguste Motare, nashukuru Papa Fatakio. Wametusaidia sana. Oh oh, oh, oh sande. Hey,
kare kare bakungu bitu baminanga ngoma nongobo.
Kare kare bakungu bitu baminanga ngoma nongobo.
Ngoma ya hundaye bakungu bitu baminanga ngisenga ikienge ndikaro nongobo.
Marikinda nye kinwai, marikinda nye kinwai.
C'était la chanson Ngoma ya Ikobo, traduisait les tam-tams d'Ikobo de l'artiste Amos Mouimboa, une chanson qui nous amène directement chez les Bakobo du Nord Kivu. Vous écoutez les magazines Identité culturelle. Ce sont trois notables Kobo qui nous font découvrir leur communauté. Il s'agit des Balthazar Kioma, Paul Kassai et Jérôme Makitikira. C'est ces derniers qui commencent par nous parler des origines des Kobo ou Bakobo, ces peuples qu'on retrouve actuellement dans les territoires des Walikale à la limite des Lubero et Rutshuru.
Les Bakobo sont venus de l'Ouganda avec d'autres peuples tels que les Batangi, les Bamate et même les Bahunde. Les Bakobo est une descendance de Bahira. En quittant Ouganda, avec les autres, ils se sont d'abord installés à Katanda. Katanda, village qui se trouvait avant l'entrée de Vichumbi à la Rwindi. Mais après Katanda, ils sont allés s'installer à Birundule, c'est dans les Buito. C'est là où les gens se sont divisés. Les Bakobo sont partis là où on appelle les Mouire, ils se sont installés là-bas. Les Batangi et le Bamate sont partis chez eux. Et les Bahunde sont partis chez eux. Mais quoique les gens se sont divisés, les Bamate, les Batangi et les Bakobo ont gardé leur communion. C'est-à-dire, ils avaient construit leur baraza à Luofu, là où on appelait Washua à l'époque. Et dans ce baraza-là, il y avait des piliers où il y avait les Mutangi, il y avait les Mumate, il y avait aussi les Mukobo. À l'époque-là, pour la communion de ces gens, ils avaient même leur territoire, qu'on appelait le territoire de Luofu. Et là, il y avait leur territoire qui avait trois collectivités. Mais après cela, il y avait Masisi qui était avec Walikale, puisque là, il n'y avait pas de gens. Ils sont partis pour aller demander à Luofu comment on peut leur renforcer pour qu'ils aient déjà pour être dans leur territoire. Alors, on avait pris les Bakobo pour les transférer à Masisi. On avait encore divisé Masisi et Walikale. Mais Walikale qui n'avait même pas aussi de gens. Maintenant, on avait pris encore les Bakobo pour être dans Walikale. Ils gardaient toujours leurs frontières. Leurs frontières étaient jusqu'à Pinga. On descendait avec la rivière la Luholu jusqu'à Pinga. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, le curé de l'église catholique de Kanyabayonga dans Lubero continue même à superviser les églises. Il quitte Kanyabayonga dans Lubero pour aller superviser les églises catholiques qui se trouvent d'Aïkobo jusqu'à Pinga. Pour dire que jusqu'à aujourd'hui, les catholiques continuent à rester avec les limites là de l'époque. C'est-à-dire, pour les Bakobo, c'est après cela qu'on avait Sende, Walikale et Masisi. Maintenant, directement, on supprima le territoire de Luofu. Quand on avait supprimé le territoire de Luofu, les Bamate et les Batangi sont partis à Lobero. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Bamate et les Batangi sont dans Lobero. Mais après cela...
Et vous, les Bakobo, vous vous êtes retrouvés?
Maintenant, nous, les Bakobo, jusqu'à l'heure où nous parlons, nous nous retrouvons toujours à Walikale. Donc, nous sommes à Walikale, dans la limite de Lobero et de Rutshuru.
Et le grand centre de Bakobo, c'est quelle cité, quelle localité aujourd'hui?
À l'époque, le grand centre de Bakobo était à Mouire, puisque c'est là où il y avait le grand chef qui est venu avec les autres Bami, de Bamate et de Batangi. C'était à Mouire. Mais après cela, ils se sont installés à Buleusa et à Bukumbirwa. C'est-à-dire, pour les Bami d'Ikobo, il y avait d'abord le Mwami Mulema, il y avait le Mwami Iriba, il y avait le Mwami Bisito, il y avait le Mwami Muronga, il y avait aussi le Mwami Bisito 2. Tous ces Bami ne sont plus. Maintenant, peut-être dans les jours à venir, on va investir le Mwami qui doit être maintenant Iriba 2. C'est-à-dire, la langue Kikobo est parlée à Ikobo, est parlée à Kisimba, et dans les territoires tels que le territoire de Lubero qui est dans notre limite, le territoire de Rutshuru qui est à notre limite. Et puis vous savez que dans le linguistique, il y a le limite là qui influence aussi le langue. Oui.
Voilà. Là, vous avez cité quelques Bami, quelques chefs coutumiers de Bakobo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque le territoire de Luofu a été supprimé, les Bakobo sont restés une chefferie ou comment êtes-vous organisé?
Les Bakobo sont restés comme groupement. Il y a maintenant le groupement Ikobo, il y a le groupement Kisimba, mais aussi il y a le groupement Kanyabayonga d'Arutshuru. Tout ça communément, ce sont ces gens qu'on appelle les Bakumbule dans l'assemble.
Donc les Bakobo sont en même temps les Bakumbule.
Oui, les Bakobo, quand on est avec tous les autres là-bas, on les appelle les Bakumbule. Mais tout le monde parle la langue Kikobo.
Balthazar Kioma, vous êtes de la jeunesse des Bakumbule.
Oui, je voulais ajouter une chose, c'est que l'entité, les trois groupements tels qu'il l'a dit, il y a le groupement Ikobo, le groupement Kisimba et le groupement Kanyabayonga, comme il le disait, forment l'entité qu'on appelle le Bukumbule. Le Bukumbule n'est rien autre qu'une entité où on parle la langue Kikobo. Le Kikobo se parle à Ikobo, dans le groupement Ikobo, dans le groupement Kisimba et dans le groupement Kanyabayonga. Le groupement Kanyabayonga qui est dans le Rutshuru, bien sûr, dans la chefferie de Bwito, c'est un groupement où vous arrivez, vous dites... On parle une langue similaire au Kiunde, mais les vraies origines de cette langue, c'est le Kikobo. Parce que c'est là où les Bakobo se sont installés en premier. Et si vous voyez leur similarité, c'est la même chose. La langue qui se parle dans les Bukumbule, c'est le Kikobo. Une langue connue avec un code attribué au niveau international.
Et donc, les Bukumbule, ce n'est pas une entité administrative, c'est juste une entité, on peut dire, culturelle, qui vous réunit ou coutumière, je ne sais pas.
Voilà, si on pouvait le dire, ce serait ça la chefferie, comme on pouvait le souhaiter. Nous, on s'est dit, dans notre façon de s'organiser, dans notre façon d'être, on aurait souhaité que ça soit déjà une chefferie. Mais ça reste une entité coutumière. Coutumièrement, les choses qui doivent se passer dans cette entité doivent s'organiser entre les groupements-là.
Je reviens chez vous, pasteur Jérôme Kitikira. Vous avez parlé des Mwami de Bakobo et vous avez dit qu'il y a un Mwami qui devait être investi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Mwami qui règne chez vous?
Vous savez que pour les Bami, quand le Mwami n'est plus, il y a... Puisque chez nous, on ne se succède pas du père au fils. Quand le Mwami n'est plus, on voit sur la Mumbo a mis au monde un garçon. C'est le garçon-là de Mumbo qui règne à sa place.
La Mumbo qui est la reine-mère.
Oui, la reine-mère. Après avoir investi le Mwami, il y a le Mumbo qui part. Et quand elle va partir, elle reviendra ayant un garçon qui doit succéder son papa. Maintenant, pour Ikobo aujourd'hui, la Mumbo... à un enfant mineur. Et si l'enfant est mineur, on prend le chemumbo. Chez nous, on appelle chemumbo. Le papa de Mumbo, c'est celui qu'on appelle chemumbo. C'est chemumbo qui peut garder le pouvoir pour son petit-fils. Si le chemumbo n'est pas capable de garder le pouvoir pour son petit-fils, directement, on prend le fils du Mwami, qui sont là, mais qui doivent être des chefs, pas des bamis, mais un chef qui est régent, jusqu'à ce que l'enfant de Mwami soit grandi et récupère le pouvoir de son papa.
Ou l'enfant de la Mumbo, quoi.
Oui, l'enfant de la Mumbo, oui. Oui. Et puis l'enfant de la Mumbo, là, il ne reste pas n'importe où. Il reste là où on appelle dans le cours royal. C'est-à-dire, il peut aller rester chez le Mwami de Bwito, par exemple. Il peut aller vivre chez le Mwami de Batangi. Il peut aller vivre chez le Mwami de Bamate. C'est-à-dire, quand il sera là, il saura comment le comportement de Mwami. Oui.
Pourquoi l'enfant doit nécessairement être élevé dans une autre cour royale plutôt que dans la cour royale où il régnera?
D'ailleurs, son papa n'a pas droit même de le voir. Après la disparition de son papa, c'est à ce moment-là que le vieux du Baraza peut aller à la recherche de cet enfant-là, voir là où il est. C'est-à-dire, quand il va rester là-bas, ce n'est pas son papa qui doit le garder, mais plutôt son grand-père, qui est Chamumbo.
Notable Paul Kassai, vous avez des précisions à ce sujet.
Oui, vous avez demandé pourquoi cet enfant ne peut pas être gardé chez son père, s'il faut le dire comme
bon,
ça.
Bon, pas son père, la cour royale où il va régner.
La cour royale où il va régner. Il y a d'abord un problème de sécurité. Parce qu'il n'est pas dit que, parce qu'il est fils de Mumbo, que tout le monde va le voir de bon oeil. Donc il doit être dans un endroit sécurisé, qui n'est pas lié directement à sa famille. Donc ceux-là qui le gardent, ils le gardent pour qu'il puisse grandir et pérenniser le pouvoir de son père. Mais par contre, s'il est gardé dans la cour où il va régner, vous savez par exemple que le Mwami n'a pas une seule femme. Et les autres femmes-là, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire de cet enfant-là. Ou même les enfants de ces femmes-là. Ou les membres des familles de ces... Parce que la coutume prévoit que si lui n'est pas là, il y aura d'autres. Alors, si ces autres-là estiment que, non, non, si ce monsieur n'est pas là, ça sera mon fils qui va régner. Donc, ils peuvent avoir intérêt à supprimer cet enfant-là pour que son fils puisse régner. Et c'est la principale raison qui fait que l'enfant ne peut pas être gardé dans la cour royale où il régnera.
On rentre un peu dans l'actualité. Quand on dit aujourd'hui que pour être, par exemple, président de la République, il faut être congolais de père et de mère. Si la Mumbo sortait, la femme qui a été choisie pour dire c'est elle qui mettra au monde les futurs rois, elle doit aller chercher un homme qui n'est pas connu. La coutume lui demande seulement un fils dont le père n'est pas connu, qui n'est même pas congolais, je ne sais pas, mais bon, c'est pas un peu brader les pouvoirs coutumiers chez vous?
C'est pas brader le pouvoir coutumier. Le problème, c'est que ce qui est sûr, c'est que ce garçon-là est le fils de la reine-mère. Et on ne demande pas à la reine-mère de partir pour aller chercher un homme, non. La reine-mère va habiter avec ses parents.
Elle ne se marie pas.
Elle ne se marie pas. Et les Mwami ne la dotent pas. Les Mwami peuvent avoir d'autres femmes dotées. Mais la Mumbo, elle est la reine mère, on ne la dote pas. Et là où elle est avec ses parents, comme grande fille, elle aura des relations avec je ne sais pas quel garçon qui l'aura aimé. Et c'est avec celui-là qu'il pourra avoir l'enfant qui va succéder au roi qui est là. Et à cette Mumbo-là, reine mère, on ne lui donne pas des conditions pour dire là où tu vas, il faudra un homme de tel ou de tel calibre ou de telle tribu. Parce que généralement, ce sont des enfants, ce sont des mineurs qui vont habiter avec leurs parents ailleurs. Et là, quand elles grandissent, elles s'unissent à des garçons qu'ils trouvent. Et la nature fera que avec un de ces garçons-là, il aura un fils, et c'est ce fils-là qui succédera au Mwami, avec qui ils ont été intronisés. Parce que pour être le Mwami, pour être intronisé, il doit avoir une femme. Et cette femme-là, c'est la reine-mère, qui généralement est mineure. C'est-à-dire, la reine-mère, généralement, ce n'est pas une vieille dame. Ce n'est pas une femme qui a déjà connu d'autres hommes. C'est généralement une fille vierge. Et alors, le temps qu'elle va grandir là où elle est, elle va s'unir à d'autres garçons. Et c'est ce qui fait que souvent, les Mwami meurent pendant que le prince héritier est généralement mineur. Parce que à l'intronisation du Mwami qui lui est majeur, souvent on lui donne une reine mère de d'un âge qui n'est pas encore suffisant pour mettre au monde. Et le temps qu'elle grandisse, l'autre vieillit et souvent il meurt. Pendant que là où elle est allée, elle a encore un enfant qui est mineur, qui n'est pas apte à lui succéder.
Et si le mami s'arrange pour faire l'enfant à la reine mère?
Ce n'est pas un arrangement. Après tout, c'est sa femme. Il peut avoir un enfant avec elle. Ce n'est pas interdit. Oui. La coutume ne l'interdit pas. Mais le fait qu'elle est mineure, elle va vivre avec ses parents. Et le mami a d'autres femmes dotées. Ces femmes dotées-là, leurs enfants ne peuvent pas succéder au mami, leur père. La reine mère, là où elle est allée, elle va avoir l'enfant qui va succéder au mami. Et le fait qu'elle est allée là-bas jeune, comme je l'ai dit, elle va avoir un enfant avec je ne sais pas quel homme inconnu. Mais ça sera le fait que ce jeune homme-là, à part l'identité de sa mère, à part le sang de sa mère, il n'a pas une autre identité connue. Et cela voudra qu'il peut s'identifier à tout le monde et tout le monde peut s'identifier à lui. Donc à ce moment-là, il pourra rassembler tout le monde et tout le monde va l'accepter comme tel parce que on ne peut pas dire oui, nimutoto ya fulani, ah oui, nimutoto ya fulani, batasema tu, nimutoto ya mwami parce que c'est l'enfant de la reine mère et puis c'est fini. Et à ce moment-là, ça renforce l'unité du royaume que lui va gérer. Tout le monde va s'identifier à lui.
Quels sont les grands points de la culture des Bakobo?
Les grands points de la culture des Bakobo, il y a d'abord la langue. La langue Kikobo, qui est différente des autres langues. Différente dans la mesure où, même aujourd'hui, les scientifiques viennent de prouver que le Kikobo, ce n'est pas le Kinande, ce n'est pas le Kihunde. Et le Kikobo vient d'être ajouté sur la liste des langues du Congo avec le code ethnologique du Kikobo. Donc c'est une nouvelle langue qui vient de s'ajouter sur la liste des langues parlées au Congo, reconnues scientifiquement. Parce qu'il y a des gens qui parlent des langues qui ne sont pas reconnues comme langue comme telle.
Voilà, et quand vous dites que la langue a été reconnue, cela a été reconnu par quelle structure?
Le Kikobo a été reconnu grâce au travail fait par la Société internationale de linguistique qui menait les études et qui a fait que les structures habilitées à agréer les langues ont accepté que le Kikobo est une langue à part par rapport aux autres langues environnantes.
Et quel est le code de cette
langue? Le code du Kikobo, quelle cette structure-là a donné au Kikobo, c'est OKC, distance JD40. C'est ça le code du Kikobo. OKC, espace JD40. Et normalement, les langues environnantes comme le Kinyanga, le Kihunde, il y en a qui ont le code D41, D42. Nous, on nous a donné JD40 parce que, selon les spécialistes, le J, là, c'est pour les langues au bord du lac. Le lac Édouard, le lac Albert, tout ça. Et le D, c'est normalement, comme je l'ai dit, le Kinyanga et le Kihunde. Comme nous sommes aux environs de ces deux régions-là, je pense que c'est pour ça qu'on a donné JD, parce que normalement c'est une seule lettre. Mais nous, on nous a affecté les deux.
Ouais. Et donc, ça vous confère une notoriété?
Ça nous confère une personnalité de communauté à part entière par rapport aux autres communautés qui ont aussi d'autres langues. Alors, le fait d'être une communauté à part entière, nous avons aussi notre culture.
Pour aujourd'hui, Identité culturelle est terminée. Nous sommes allés chez les Bamboma de l'ouest du pays, précisément du Congo central, et chez les Kobo de l'est, en province du Nord Kivu. Merci à tous nos invités avec qui nous avons fait cette découverte. Merci à Nana Plurich Mambou pour sa participation. Ce magazine a été produit sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Rosalie Zawadi. Je vous remercie, chers auditeurs, de l'avoir suivi. À très bientôt sur Radio Okapi. Portez-vous bien.